Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposés en ce début de semaine. Alors, on va parler aujourd'hui de pas mal de petits sujets d'actualité. Même si l'actualité au niveau fitness, je peux vous garantir que c'est la croix et la bannière pour essayer de trouver du contenu, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que, pour plusieurs raisons déjà, on en parlera plus tard. On en parlera plus tard, mais il y a un désintérêt profond. C'est pour ça que le titre, c'est « Le fitness est mort ou en coma ». Tout simplement parce que, pour des tas de raisons, le monde du fitness est mis dans la tête de beaucoup de personnes en second plan. Alors, je sais, vous qui m'écoutez, nous, on est un peu des irréductibles, parce que c'est notre style de vie, mais globalement, on en parle assez peu, et je vous invite même, vous, à faire le travail, taper ne serait-ce que « musculation » ou « fitness » dans Google Actualité ou dans des médiums comme ça qui proposent un petit peu d'actu, vous allez voir que les sujets sont assez distancés en termes de date finalement. Et donc du coup, on voit bien que c'est pas un sujet chaud malgré les grosses problématiques qu'il y a dans l'industrie du fitness. Quand je parle de l'industrie, on va parler surtout des salles de sport, quoi. Bon, bref. Aujourd'hui, on va traverser l'actualité santé-fitness avec du sans gluten, un robot qui a un soulevé de terre à 68 kilos. On va parler des salles de sport, on va parler d'un nouveau film de bourrin pour les gens un peu sans cerveau comme moi. Et on va parler également d'une petite réflexion. Alors, je l'ai eu rapidement ce matin. On en parlera de toute façon, vous allez voir. Ça va être assez varié. Bon, allez, on attaque avec le premier sujet. Le premier sujet, c'est sur la économiser cette année en mangeant sans gluten. Oui, en fait, je sais que, moi, vous savez que je ratisse assez large pour les sujets, parce que je pense que ce sont des sujets qui devraient ou qui peuvent vous intéresser aussi, étant donné que moi ça m'intéresse et qu'on se ressemble plus ou moins. J'aime bien apporter, puis j'ai le temps, moi, c'est mon travail de chercher cette actualité, donc c'est intéressant, je pense, de la partager avec vous. Donc en fait, pourquoi j'ai mis comme titre « Économiser cette année en mangeant sans gluten » Tout simplement parce que le cours du blé en France a augmenté. Donc ça a augmenté fortement. Alors il y en a qui vont se dire, il y en a qui en profitent, etc. Non, c'est pas qu'il y en a qui en profitent, c'est tout simplement qu'il y a eu de la sécheresse au Canada, donc des récoltes qui ont été perdues. Il y a une récolte russe décevante et une forte demande mondiale, donc le prix des céréales s'envole, tout simplement. Donc ils disent que c'est du pain béni pour les agriculteurs français. Donc ça reste à voir si c'est les agriculteurs qui vont en profiter ou les distributeurs. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour l'occasion, manger sans gluten va devenir plus économique. Parce que une des grosses problématiques de s'alimenter. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, mais attends, pourquoi tu veux nous faire manger sans gluten? C'est quoi le problème? Il n'y a pas réellement de problème si vous n'avez pas de problème, sauf à partir du moment où vous voulez commencer à faire attention à votre tour de taille, etc. Le blé, les fibres contenues dans le blé, même dans le blé complet, hein, ne sont pas les mêmes, par exemple, que dans le riz complet ou dans des aliments autres entiers. Et donc, du coup, ces fibres-là n'ont pas le même effet au niveau de l'IG. C'est pour ça que vous avez déjà vu que le blé complet, vous avez certainement vu déjà des articles et tout ce qui se dit sur le sujet, où ils prennent du pain complet et du pain blanc, et ils disent, finalement, l'index glycémique n'est pas forcément différent entre les deux. C'est modeste, en fait, c'est marginal, la différence. C'est tout simplement que les fibres du blé ne, si je vais simplifier à mort, mais ne ralentissent pas autant la digestion que ce qu'on pourrait en attendre finalement, parce que souvent quand on consomme des aliments entiers et complets, c'est tout simplement pour avoir déjà un spectre plus large en termes de micronutriments, mais également un apport en fibres plus élevé, ce qui permet de ralentir la digestion, d'augmenter la satiété et donc d'éviter des pics de glycémie, etc. Et ben il s'agit, enfin voilà, il se trouve que dans le blé, c'est même complet, on profite pas réellement de cette alliance réduction de la satiété, enfin pas réduction, obtention rapide de satiété, donc que ça cale en fait tout simplement, et baisse de la glycémie, enfin en tout cas maintien d'une glycémie plutôt stable. Donc déjà c'est une des raisons pour lesquelles le blé est assez peu présent finalement. Alors tous les aliments dérivés du blé, les pâtes, le pain, les brioches, tous ces trucs là, c'est assez peu commun dans les diètes pour garder la forme. Et également, après, il y a le côté gluten. Le gluten, même si aujourd'hui, c'est moins à la mode, donc c'est plus rentré dans le quotidien de beaucoup de personnes, mais c'est moins à la mode, on en parle moins, mais les données sont toujours les mêmes. Le gluten, aujourd'hui, dans le blé moderne, n'est pas le même qu'il y a des quelques décennies. Et donc, du coup, c'est pro-inflammatoire pour une grande partie des gens. Moi, j'en ai fait les frais, on va dire, entre guillemets, alors à ma petite échelle, mais c'est vrai que quand je consomme du gluten régulièrement, ça peut me créer des désordres intestinaux, alors pas violents, hein, mais c'est toujours des désordres, et cumulé au désavantage au niveau fitness, enfin j'ai pas trouvé d'intérêt de le conserver. Alors je suis pas sectaire, une diète pure sans gluten c'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais d'essayer d'avoir un ratio plus faible pour les produits contenant du gluten. Donc par exemple, si on va choisir un pain de seigle complet avec plein de graines et tout, c'est ça justement qui va réduire la glycémie quand il y a beaucoup de graines, surtout de matières grasses et de fibres autres ajoutées au pain. C'est ça qui va un petit peu calmer la réponse glycémique. Et donc du coup, moi je regarde plutôt un apport ultra modeste. J'aime pas me priver 100% d'un aliment. Je préfère, quand il est pénalisant, de le réduire au minimum sans le supprimer totalement. Mais bon, par rapport à cet article, ce que je voulais dire, c'est que finalement, pour beaucoup de personnes, manger sans gluten, c'était synonyme de chair. Alors attention, manger sans gluten, il faut pas aller chercher des farines de maïs ou des farines de blé, de riz, etc., qui elles ont un IG relativement élevé, et c'est pas intéressant au niveau fitness. Donc vous savez, tous les aliments qui sont tamponnés sans gluten, mais transformés par l'industrie, c'est pas forcément quelque chose d'intéressant pour le sportif, et même pour la santé globalement. Mieux vaut se tourner vers des aliments naturellement sans gluten, la patate douce, le riz, enfin même tout un tas de le sarrasin, des choses comme ça, ce qui peut être beaucoup plus intéressante au niveau micronutriments, au niveau santé et au niveau fitness. Et donc du coup, ces aliments qui étaient plutôt mis de côté par leur prix, et bien là, l'écart de prix actuellement a tendance à se réduire, étant donné que le blé augmente. Donc du coup, ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent s'y mettre, de recalculer un peu leur panier de course, parce que de toute façon, quand il y a une hausse comme ça du cours du blé, parce que ce sont des cours, hein, comme le cours de l'or, etc., ça peut être intéressant de regarder son panier d'achat, de regarder les augmentations sur tous ces produits-là. Donc voilà, ça c'était une petite actualité, et sachez que c'est pas ceux qui... Moi je serais curieux de savoir qui en profite réellement. Est-ce que c'est les agriculteurs? Si c'est les agriculteurs, tant mieux, hein. S'ils taxent à mort les produits qu'on envoie ailleurs, enfin moi je suis pour, hein, puisque c'est bien de... Alors pas d'envoyer toutes nos... Ah, d'ailleurs il y a un truc qui m'a perturbé. Je vais vous en parler après. Moi, je suis de taxer à mort les produits qui sortent de la France, je suis pour. Hein. Enfin, je veux dire, c'est normal. Au moins, ça permet, vous savez, l'offre et la demande, hein, pour qu'il en reste sur le territoire français. Le but étant d'augmenter les prix. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'augmenter les prix de sortie, pas les prix sur le local, quoi. Mais bon, après... Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Bon, le petit truc qui m'avait perturbé, moi, qui m'a mis, ça m'a, contrairement à beaucoup de personnes, moi, c'est un truc qui m'a marqué énormément. Quand j'ai vu que la Chine, je crois que c'est la Chine, participe énormément à la déforestation en France. C'est-à-dire que ils ont besoin de bois là-bas, visiblement. Et en fait, pour se servir en bois, ils viennent chez nous. Et donc du coup, ils pillent un peu les forêts. Et vous savez que j'ai énormément j'ai une alliance extrême avec les arbres, les forêts, tout ça. Enfin, moi personnellement, je suis pas écologiste. Attention, hein, je suis pas, enfin à ma petite échelle, comme n'importe quel individu. Mais je veux dire, je suis pas un activiste dans ce domaine. Par contre, quand je vois ce genre de choses, ça me dérange de venir piller. Nos belles forêts pour je sais pas quoi faire, peut-être des meubles ou des j'en sais rien. Alors nous on le fait aussi ailleurs et je trouve ça pas bon. Mais là quand c'est fait chez nous, bah forcément ça nous touche plus puisque les forêts on y a accès directement. Donc il faut en être conscient. Et moi personnellement quand j'ai vu ça, j'ai dit mais quelle bande de, enfin bon voilà, je dirais pas la fin de ma phrase, mais ça m'énerve en fait. Ça m'énerve pas qu'eux en fait que les Chinois demandent si nous on a du bois et nous l'achètent. Bon, ils ont le droit. Mais en fait, c'est ceux qui disent OK et qui viennent avec qui viennent sur notre terre en fait couper les arbres, ça me dérange puisqu'il y a quand même un accord au niveau français ou au niveau européen et ça me dérange un petit peu plus. Et je pense que très largement le monde du fitness c'est aussi le monde des forêts, de la nature et tout, parce que on aime se promener, on aime faire notre cardio, notre balade en vélo ou notre balade en famille dans les espaces verts, etc. Et aujourd'hui, enfin, on s'en rend pas compte aujourd'hui parce que la France est dans un état assez divisé, assez problématique actuellement, mais on se rend pas compte. Et moi je l'ai vu avec pas mal de personnes qui sont parties vivre ailleurs. Je suis régulièrement en contact avec des personnes qui vivent dans d'autres pays, et souvent des pays type anglo-saxons. Et un ami qui est un très très bon ami de très longue date, qui est parti vivre en Australie et qui me dit, tu sais Théo, j'ai bourlingué, il a fait beaucoup de pays, et il m'a dit, en France, c'est très bien. Il me dit, tout est bien, sauf deux choses. Il m'a dit la politique. Donc la gestion en fait du pays, et ça c'était il y a quelques années qu'il me disait ça, pas en ce moment. Et deuxième chose, il me dit le climat un peu insécurité, qui, enfin c'est pas un peu, c'est en fait là comment on appelle ça, là en fait ils sont un peu aveugles sur le réel climat d'insécurité en France. Et il le minimise alors que beaucoup de personnes vivent dans l'insécurité, mais pas que au niveau comment dire, entre les individus, mais globalement en fait, l'insécurité globale à tout point de vue en fait, protection à la fois de la sécurité physique et tout ça, mais également de la sécurité au niveau de l'emploi et tout. Même si aujourd'hui on est dans un pays où il y a beaucoup d'aide et tout, lui il pointait ça. En fait, il le démontrait par rapport au fait que dans les pays où il est allé, il arrivait quasiment sans expérience et il a partout trouvé assez facilement du travail. Et que s'il voulait travailler beaucoup, il avait le droit de travailler beaucoup. Et c'est ça qu'il reprochait un petit peu en France, où ceux qui voulaient bosser, bah, finalement, on était toujours un peu bridés, quoi. Bref, en fait, c'est pour dire que la France est belle. Au-delà de sa gestion interne du pays et tout ça, on a quand même des très beaux décors, on a les plus belles villes, les plus belles, bon, franchement, il faut dire ce qui est, montagne, mer, océan, enfin ceux qui ont un peu fait la... Et d'ailleurs, bon, il faut pas trop que je m'étende sur le sujet, mais beaucoup de personnes ont pour rêve de partir à l'étranger en vacances et tout ça. Honnêtement, en France, vous avez des tas et des tas et des tas de coins qui sont vraiment sympas. Si vous aimez la bagnole et que vous aimez rouler, partir en road trip et tout, franchement, il y a vraiment des super beaux routes en France. Aller faire un tour en Provence, moi j'adore la Provence par exemple, c'est génial. Mais aller également dans le Jura, dans le Puy-de-Dôme et tout ça. Alors les climats sont variables, hein, bien sûr. Mais on a quand même un très beau pays, et pour l'explorer, enfin je veux dire, quand on aime le sport et qu'on aime le monde du fitness, on est assez bien servi, quoi. On peut faire du kayak, du canoë, on peut faire de l'escalade, enfin il y a quand même matière à s'exprimer quand on est sportif en France, quoi. Et donc c'est pour ça qu'en règle générale, quand il y a des gens qui viennent ou des décisions qui sont prises pour retirer finalement un côté nature et beau à la France, moi ça me dérange. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont rien à foutre parce qu'ils sont pros, et ce sont des citadins, ils vivent en ville et les arbres ils les voient pas. Mais pour quelqu'un comme moi qui est grandi dans la nature et qui fait tout aujourd'hui pour avoir un morceau de nature proche de lui, ça a tendance à me déranger. Bref, je m'arrête là-dessus, on passe sur un sujet extra léger. Pour tous ceux qui, comme moi, n'ont pas trop de cerveau, Il y a un nouveau film de bourrin qui va pas tarder à sortir. Vous savez, ce genre de film qui détend, où on se met devant, on n'en attend rien, aucune réflexion psychologique, aucune réflexion philosophique. C'est vraiment un film qui défoule un petit peu. C'est, vous savez, les Expendables. Alors, j'ai pas été fan de tous les Expendables. Je pense que le 1 m'avait bien plu, le 2 et le 3 moyennement. Moi, ça me plaît bien parce que j'aime bien Jason Statham, j'aime bien Terry Crews, j'aime bien comment il s'appelle l'autre acteur, je me rappelle, je sais plus s'il y était dans le premier, Dolph Lundgren, je sais pas comment on prononce, mais voilà, ce genre d'acteurs qui ont un peu bercé, enfin c'est pas tous d'ailleurs, mais certains ont bercé un peu les années 90, qui sont très à la mode aujourd'hui. Regardez la mode aujourd'hui au niveau du design, au niveau des séries télé et tout ça, beaucoup se passe dans les années 90. On est au cœur de la mode des années 90. Donc je fais un petit parallèle, mais si vous voulez investir dans une bagnole qui va commencer à côté, miser des voitures qui démarrent en 1989 et finissent dans les années 2000 à peu près, puisque ce sont des véhicules qui vont côté, étant donné que la mode est aux années 90 actuellement, hein, je parle. Regardez bien la mode jean taille haute, les salopettes, voilà, tout, et les designs, etc., dans les graphiques, ce sont les années 90 qui sont à la mode actuellement. Donc voilà, bref. Donc ce nouveau film de bourrin, c'est pas Expendable 4, en fait c'est un spin-off, donc c'est Stallone qui a posté ça sur Instagram, ça va être un spin-off sur, je crois que c'est The Christmas Story, donc c'est en fait le Jason Statham, là, ça va être un spin-off sur lui. Donc tant mieux, parce que moi j'aime bien cet acteur. D'ailleurs, je vous recommande un film avec lui qui est pas mal, qui s'appelle Homefront, qui est pas un petit peu plus philosophique, mais bon, qui reste quand même un truc de bourrin. Et bon, voilà, j'ai hâte de voir ça, parce que d'avoir des films un peu légers comme ça, d'action à l'ancienne, ça manque. Moi, personnellement, ça me manque, en fait. Quand je regarde des films d'action aujourd'hui, je cherche encore l'action. Il y a assez peu, à part là, le dernier, là, le Boss Level sur Amazon Prime, que j'ai trouvé assez sympa, assez relaxant. En fait, ce genre de film, où on peut poser son cerveau, quoi, et regarder un peu d'action comme ça, ce qui se fait relativement rare actuellement. Et d'ailleurs, Boss Level, qui lui aussi explore les années 90, vous allez voir, pas dans le, mais par le, vous savez, par les comment on appelait ça, les salles d'arcade, là. À un moment donné, on voit des salles d'arcade, et ça, typiquement, c'est les années 90. Bon, voilà. Donc, petit film de bourrin à voir et à suivre. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Peut-être prochainement. Mais en tout cas, c'est quelque chose que moi, personnellement, je vais suivre. Parce que ça fait toujours un film de plus avec des acteurs qui s'entretiennent. Parce qu'en règle générale, ce sont des acteurs qui se mettent en forme pour les rôles. Et ça fait toujours plaisir à suivre des mecs qui se donnent un peu les moyens d'être en forme pour passer devant la caméra. Allez, on passe à la suite. Alors, la suite des événements, on va parler de choses un petit peu moins fun, ça va être les salles de sport. Alors, bon, les salles de sport, comme vous le savez certainement, les salles de sport vont pas très bien en ce moment, hein. Il y a quand même beaucoup ont pensé que finalement avec l'arrivée du pass sanitaire, avec la hausse des vaccins et tout ça, des personnes vaccinées, etc., les salles de sport allaient reprendre, en fait, logiquement ça devait aller avec. Sauf que en fait non, puisque il y a des, alors c'est je sais plus qui c'est le gars qui en a parlé, mais c'est quelqu'un, vous savez, un peu comme le syndicat des salles de sport. Alors, il dit il y a 1700 ou 1900, je ne sais plus, salles de sport en France, de fitness, enfin, salles de fitness. Et donc, lui, il préside un peu ça, il prend la température chez tout le monde. Et globalement, il y avait une petite hausse en juin 2021, quand les déconfinements sont arrivés, les réouvertures et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès le lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, vous savez, c'était combien, le 12 juillet, je crois, dès le lendemain, quand il a annoncé le pass sanitaire et tout ça, il dit il y a eu une hécatombe. Le constat est très inquiétant. On a eu une érosion de la base de clientèle, une hausse des résiliations et des rejets des prélèvements. La baisse des fréquentations est entre moins 20 à moins 40%. Et il s'appelle Ludovic Farult. Donc, je ne sais pas si vous avez une salle de sport, tapez son nom, vous verrez peut-être que c'est une personne avec qui vous pouvez communiquer. Il a peut-être des solutions. Mais en fait, pourquoi j'ai appelé ce podcast « La mort du fitness » ou « Le coma » Moi, je pense que c'est plutôt un coma, mais plus qu'une mort. Mais parce qu'en fait, les salles de sport, représentent et représenteront toujours le truc number one pour s'entraîner pour le grand public. Le grand public et même les passionnés. On va dire que les salles de sport, moi j'ai démarré dans les salles de sport, j'ai fait beaucoup plus d'entraînement dans ma vie dans des salles de sport qu'en home gym. La salle de sport, c'est le moteur du fitness, quel que soit le pays où on va, c'est la salle de sport qui est moteur dans la pratique. Aujourd'hui, on traverse une période où, justement, là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y en a qui ont beau dire que c'est qu'une bande de marginaux, ceux qui veulent pas le pass et tout ça, mais la réalité par les salles de sport... Alors, soit ceux qui font du sport font partie, malheureusement, des irréductibles contre, je sais pas trop quoi, les pass et tout ça, mais en tout cas, la réalité montre que les salles de sport vont mal, et si les salles de sport vont mal, si elles sont pas ou peu fréquentées, eh ben ça donne en fait la température générale et globale sur l'état de fitness du pays. Donc forcément, moi, mon point de vue, c'est que le fitness actuellement, il est en coma. Donc un peu, on est en mode belle au bois dormant, et on attend la venue du prince charmant qui va venir nous délivrer de tout ça. Moi, je pense personnellement que c'est un long coma, et ce long coma ne pourra, on pourra sortir la France pourrait sortir de ce long coma au niveau fitness que par la suppression totale, enfin la remise en route totale comme avant, etc. Enfin comme avant, avec bien sûr des cicatrices et des séquelles, mais et eux, ils parlent de, je sais plus, je crois, il faudrait 8 mois à peu près pour retrouver une vitesse de croisière, etc. Donc, vous savez, s'il y a moins de personnes, les gens, si globalement, il y en a beaucoup qui ont pris la décision de ne plus aller s'entraîner, c'est pas pour la peur de se contaminer, hein. C'est clairement des gens qui sont contre le pass sanitaire. Enfin, et après, c'est quelque chose qui peut se défendre aussi. Hein, les libertés, les gens ont le droit de se poser des questions là-dessus. Mais peu importe, en fait, ce qu'il faut regarder, ce sont les faits. Les faits sont que les gens ne vont plus dans ces salles à cause de ça, parce que ça met une barrière supplémentaire à l'entrée, tout simplement. Déjà, vous savez, quand vous touchez un domaine qui est assez fragile en termes de passage de porte, en fait. La salle de sport est un domaine fragile en termes de d'adhésion. Il faut une volonté, il faut une décision, il faut repérer les lieux, il faut se dire est-ce que je suis prêt à payer tant tous les mois, à me décider, etc. Donc il y a déjà pas mal d'obstacles à franchir, et ben évidemment le pass est un obstacle supplémentaire. Donc forcément ça va écrémer encore plus. Là visiblement ça a écrémé entre 20 et 40% des gens. Donc c'est quand même un écrémage assez conséquent, et comme je vous le disais et je le répète, l'état des salles de sport en France, ou même globalement, ça donne clairement le ton sur l'intérêt des Français envers le fitness. Parce que des personnes qui ne peuvent plus aller s'entraîner, qui ont décidé de ne pas aller en salle de sport, ce sont des personnes qui vont forcément moins se renseigner, moins regarder, être... Vous savez, quand on regardait les personnes qui arrêtent le sport, des personnes qui ont été sportives ou qui ont fait de la muscu pendant des années, et puis un jour, pour une raison X ou Y, hors Covid, hein, je parle, hein, mais pour une raison X ou Y, ce sont des personnes qui vont arrêter, par exemple, à se mettre en couple ou quoi, vous savez, ça existe, ça. Beaucoup de personnes... Ça, je comprendrai jamais, hein, mais bon, bref. Des gens qui, le jour, ils ont un super physique, ils se mettent en forme et tout, et puis le jour où ils sont en couple, ils abandonnent tout, ils prennent des kilos et tout, comme si leur vie de couple était acquise. Enfin, ça, ces gens-là, à un moment donné, ils vont tomber de haut, ils vont vite déchanter. Mieux, prenez, enfin, un conseil, ceux qui ont choisi cette facilité, raisonnez-vous rapidement. Moi, pour en avoir fait les frais quand j'étais ado, non. Rien n'est acquis, j'espère que vous avez eu la même expérience que moi tôt dans votre vie, pour pas reproduire la même erreur. Ne vous laissez jamais aller sur le côté « bon bah check, c'est bon, vie de couple, ok, ça c'est fait, je peux passer à autre chose et me mettre dans le confort ». Non, 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 non. Gardez vraiment un mode de vie sain, et continuez à vous entraîner, parce que dites-vous bien une chose, c'est que les gens détestent et ne vous diront jamais en fait que c'est pas bien d'avoir arrêté, mais bon, au fond, ils le pensent. Donc continuez, c'est votre part d'égoïsme, mais c'est aussi votre part de méditation personnelle, votre part de à vous en fait. Continuez à être indépendant de ce côté-là. Moi, je trouve ça très important. Mais je sais pas pourquoi je parle de tout ça, mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est la même chose qui se passe avec ce truc-là, c'est que les gens sont dans une forme de déni. Vous savez, là, les salles de sport sont moins fréquentées actuellement, et même globalement dans les discours, les gens évitent le sujet. Moi, je vois, je connais pas mal de personnes, et quand je discute, et pas mal de personnes que je connais ont arrêté le sport, alors quand ils me voient, ils sont un peu obligés de se justifier, enfin, ils se sentent, ils sont pas obligés, parce que je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent, mais ils se sentent obligés de se justifier parce qu'ils savent que moi, c'est mon boulot, que voilà, je baigne dedans, je regarde les actus, enfin bon, voilà, et ils disent, ah, mais moi, qui voulais reprendre, là, il y a encore un frein, et en fait, ce sont des gens qui n'arrivent pas à s'entraîner chez elles, et qui ont du mal, en fait, à faire, enfin, je sais pas pourquoi ils vont à la salle, en fait, ils ont du mal à faire du sport autrement. Et donc, du coup, je le vois clairement qu'ils évitent un petit peu le sujet, ils se trouvent des excuses, alors que c'était plutôt des gens passionnés, parfois, enfin, passionnés, en tout cas, qui arrivaient à garder la forme, qui avaient une certaine routine. Et là, on le voit clairement, qu'ils sont dans une forme de déni où ils évitent tout ça. Et n'oubliez pas que les salles de sport passeront toujours après, finalement, les distractions. Et vu qu'on nous fait miroiter un confinement là pour prochainement, donc à peu près au courant de l'automne, là, un nouveau confinement, évidemment, les gens, ils ont envie d'accumuler du plaisir avant d'être de nouveau confinés. Donc je vois par exemple que là, tout ce qui est du domaine des discothèques, des plages privées, enfin des choses comme ça, ça a plutôt tendance à bien fonctionner, en tout cas... Il y a des files d'attente assez conséquentes à l'entrée, donc les gens sont en carence de plaisir, surtout les célibataires, et je les comprends, d'avoir été verrouillés chez eux pendant des mois et des mois, enfin bon bref, c'est pas fun, donc forcément d'aller à la salle de sport ça passe en second plan. Mais il y a une solution toute simple à ça, hein, je vous le dis clairement, c'est le home gym. En attendant que les salles de sport récupèrent leur vitesse de croisière et leur liberté d'entrée-sortie, le home gym est une très bonne solution. Le home gym, c'est une salle de sport minimaliste chez vous. Vous pouvez vous entraîner à n'importe quelle heure. Vous avez envie de vous entraîner en rentrant de soirée parce que vous n'arrivez pas à dormir, vous pouvez le faire. Vous avez envie de vous entraîner avant d'aller bosser le matin, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire entre midi et deux. Vous pouvez le faire quand vous voulez. Le home gym minimaliste, comme je l'appelle, c'est ce que moi j'ai mis en place depuis 2 ans. Ça fait 2 ans. Tiens, c'est marrant. Ça fait 2 ans que je m'entraîne à la maison. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je peux vous donner un bon feedback. Moins de blessures, progression similaire, physique similaire, enfin je veux dire toutes les inquiétudes que pourraient avoir des personnes comme moi auparavant, parce que je pouvais avoir certaines inquiétudes, hein, me dire ah j'aurais plus accès à certaines machines spécifiques et tout ça en fait c'est un leurre, hein, je vous le dis concrètement, si vous continuez à travailler, alors évidemment si vous avez 3 élastiques et un haltère de 5 kilos ça va pas le faire, hein. Mais si vous avez un minimum de matos, banc, barre, haltère, une barre de traction et des chandelles par exemple, ce qui, voilà, un budget, on va dire, si vous avez entre 500 et 1000 euros à investir, voire moins, hein, si vous prenez d'occasion, moins de 500 si vous prenez tout d'occasion sur le bon coin, vous pouvez vous faire vraiment un home gym sympa et maintenir un bon physique, voire progresser. Mais par contre, vous allez taper fort parce que ça va être beaucoup de mouvements de base avec des charges libres, donc, enfin voilà, moi perso, je moins de douleur, hein. Donc voilà, je sais que beaucoup disent le contraire, mais moi, c'est, voilà, je peux vous donner mon retour personnel, j'ai moins de douleurs, et vous savez les petites douleurs à la con qu'on peut avoir quand on s'entraîne, une petite tendinite qui traîne, un petit truc comme, je n'en ai plus, donc et pourtant je travaille avec des charges quand même pour mon gabarit assez lourdes, en tout cas par rapport à mes performances que je faisais en salle, je veux dire je travaille pas plus léger quoi, donc pour moi la solution à moyen terme pour beaucoup de personnes ça serait le home gym. Le home gym, on verra dans ma réflexion en fin de podcast, c'est enfin voilà, on en parlera un petit peu. Alors attention aux chiffres. Ça c'est un autre sujet par rapport aux habitudes des Français. Alors il faudrait que je reprenne le doc. Alors c'est un doc alors le titre c'était surpoids et Covid-19, une étude montre que les Français boudent enfin les régimes pour perdre du poids. Donc je vous mettrai la source. Alors que 76% des Français déclarent vouloir faire davantage pour leur santé suite à la pandémie, ils sont nombreux à avoir pris conscience de l'importance du mieux manger, etc., etc. Alors il faut savoir une chose, c'est que là je vais vous donner un chiffre qui a été assez peu parlé. C'était en mai. Un article qui a été sorti en mai qui disait une étude pointe le surpoids, même léger, comme facteur de risque de forme grave. Donc vous savez, j'en avais déjà parlé je crois, mais les personnes en surpoids sont entre guillemets considérées comme entre guillemets super contaminateurs, 3 fois plus, tout simplement parce qu'elles expirent plus de gouttelettes aérosols, donc du coup elles sont, enfin voilà, j'ai pas besoin de, c'est pas moi qui le dis, ce sont les articles qui ont été publiés sur le sujet qui en parlent, donc voilà, et ils disent aussi que les symptômes sont plus graves chez les personnes qui ont un IMC à la base, ils disaient supérieur à 25, ce qui est assez facilement, enfin voilà, et beaucoup de personnes ont un IMC supérieur à 25, et que finalement l'étude a même conclu que le le risque de faire une forme grave du Covid augmente même au-dessus d'un IMC de 23. Donc on voit que même un léger surpoids augmente en fait les risques. Donc c'est là où il y a un énorme paradoxe, c'est que la forme physique, et on sait que pour perdre du bide par exemple, cette graisse viscérale, la muscu est géniale, hein, la muscu et la haute intensité c'est génial, et ce sont deux choses que vous pouvez faire à la maison. Eh ben, on en parle assez peu. Moi, ça me, c'est toujours pareil. Il devrait y avoir quand même une forte, enfin, pour s'armer au maximum, essayer de tomber son IMC. Alors, l'IMC, pour les gens, le grand public, ça peut parler. Pour les personnes qui font de la muscu comme vous et moi, notre IMC est un peu faussé, tout simplement parce qu'on a plus de masse musculaire, ça pèse sur la balance, et donc notre IMC, il est faussé. Donc, mieux vaut se baser sur les tours de taille, et le tour de taille, je crois qu'il faut avoir inférieur à 92, 13, ou même, je crois que ça a été revu à 100, mais bon, c'est pas bon signe quand c'est revu à la hausse, mais il faut avoir un tour de taille inférieur à une certaine mesure. Je crois que c'est entre 90 et 100 pour un homme, donc inférieur à ce chiffre-là. Et pour une femme, c'est de l'ordre de 80 ou je sais plus. Je vais essayer de vous le trouver. Tour de taille max homme santé. Je vais taper. On va voir les chiffres. Déjà, il faut que je trouve un site qui est pas trop pourri. En général, les Canadiens sont pas trop mal. Bon, je vais aller voir de ce côté-là. Alors, le tour de taille, qu'est-ce qu'ils nous disent sur les valeurs minimales? Alors voilà, pour les femmes, le tour de taille de moins de 88 cm est une référence normale et moins de 75 cm est un tour de taille idéal. Pour les hommes, un tour de taille de moins de 1 mètre est une bonne moyenne et un tour de taille de moins de 88 cm est idéal. Donc voilà. Donc pour les femmes, viser les 75 cm, pour les hommes, viser moins de 88 cm. Donc voilà, moi je sais que j'étais, je sais plus, dans les 70 ou entre 60, ouais, un truc comme ça. Bon, pour vous donner un repère quoi, essayez d'avoir un tour de taille assez fin. Quand vous faites de la muscu, c'est ça en fait le repère plutôt santé. Parce que évidemment, vous pouvez faire de la muscu, mais être en surpoids au niveau de la graisse viscérale, hein, ça c'est pas exclu. C'est pour ça que le fitness n'est pas un sport que d'entraînement. Le fitness est un sport d'entraînement, de compréhension, de nutrition, enfin voilà, c'est un sport relativement global pour obtenir une bonne santé. C'est pas juste aller faire du sport, quoi. Mais bon, ça reste quand même le pilier. Donc voilà, et ils parlent de ça dans cette étude, etc. Ils disent que près d'une personne sur deux a éprouvé du stress, 35% des personnes interrogées reconnaissent avoir moins bien dormi, un Français sur deux a pris du poids, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? 75% des gens vont faire plus d'activité physique maintenant, donc chiffres qui ne coïncident pas avec les salles de sport. Vous voyez que 75% des gens vont faire plus d'activités physiques, mais il y a moins de trafic dans les salles de sport. Donc on voit bien que l'intention des gens serait de faire plus de sport, mais qu'il y a une autre barrière qui s'est mise entre eux et la salle de sport, et je vous laisse deviner laquelle. 33% des personnes vont opter pour des choix alimentaires en fonction des qualités nutritionnelles des produits, 30% vont cuisiner plutôt qu'acheter des plats emportés, 19% vont acheter des aliments de proximité ou biologiques. A contrario, moins de 1% des gens, d'un Français sur 10, pardon, va se tourner vers un régime hypocalorique. Quant au programme amincissant payant, ils sont que 3% à s'y intéresser. Et en fait, ils disent dans l'article là que durant les confinements et tout ça, les gens ont réappris à cuisiner à la maison, ils ont repris conscience des choses et tout ça, et que c'est cool parce que cuisiner à la maison, c'est plus sain. Sauf que les chiffres ont montré qu'au niveau du surpoids, c'est où un Français sur deux, donc 55%, a pris du poids. Donc c'est pas cohérent. Est-ce que les gens qui ont commencé à cuisiner chez eux font aussi partie de ces gens qui ont pris du poids? Donc du coup, c'est pas cohérent dans le sens où j'aimerais bien voir est-ce qu'ils ont appris à cuisiner, parce que je prends souvent les mêmes exemples, mais si faire un plat maison, c'est préparer une tartiflette maison, c'est pas forcément quelque chose de cool, quoi. Donc encore une fois, j'en reviens toujours à la même chose. La meilleure arme, c'est la connaissance de savoir quoi manger, comment le manger et tout. Aujourd'hui, on a quand même des bases assez claires sur le sujet de savoir comment bien manger. Il faut arrêter de perdre les gens en disant que personne ne sait. Non, on a quand même des grosses données sur le sujet. Donc du coup, les gens manquent de connaissances. Donc ce qui est marrant, c'est que les études, donc attention, c'est pour ça que je disais attention aux chiffres, parce que les études disent, les chiffres montent dans les sondages, les gens vont faire plus de promenades, 20% vont marcher plutôt qu'utiliser leur voiture, 17% vont s'entraîner chez eux, etc., etc., etc. Donc que des chiffres en fait qui disent, mais les gens ont pris conscience qu'un mode de vie sain était bon. Mais non, en fait, les gens sont globalement plus en surpoids qu'avant, globalement plus dépressifs qu'avant, et globalement ne vont moins à la salle qu'avant. Donc il y a quand même entre le discours et la réalité, parce que c'est vrai, quand on en parle autour de nous, si vous demandez les intentions des gens, vous verrez que c'est totalement différent des actes concrets des gens. C'est-à-dire que si vous demandez aux gens pensez-vous qu'il serait bien que vous mangiez plus de légumes, etc., est-ce que c'est une volonté pour vous dans le futur de faire plus de sport, de manger plus sain, tout le monde globalement va vous dire oui. Mais on peut pas se dire que ça va mieux parce que les gens disent qu'ils vont le faire mieux. En fait, de tout temps, j'aime pas dire ça, mais on va dire que globalement, les gens, quand vous regardez un petit peu les discours, les gens globalement disent presque toujours la même chose, disent il faut que je fasse mieux, il faut que je mange mieux, il faut que. Mais en fait, ça, les mots, ça veut rien dire, ça ne donne pas l'état concret sur le moment. Sur le moment, ce serait poser d'autres questions. Et c'est pour ça, en fait, que les chiffres, il faut faire attention. Et c'est souvent de la manière dont sont posées les questions dans les questionnaires pour les sondages et tout ça, de parler d'intention ou de parler d'acte, ça n'est pas la même chose. Mieux vaut demander aux gens, concrètement, admettons, la semaine dernière, avez-vous fait moins d'une heure d'activité physique, entre une heure et trois heures, ou plus de trois heures. Ça, c'est concret, puisqu'on se base sur les actes passés, et donc on peut prendre la température réelle du moment. Pareil pour la nutrition. Moi, une question que je pourrais poser, c'est est-ce que le repas que vous avez pris hier soir contenait que des aliments non transformés ? Est-ce que le repas d'hier midi, globalement, contenait des aliments non transformés ? Donc voilà, des choses concrètes. Alors certes, les gens vont dire, oui, mais c'est une journée. Oui, mais c'est une journée, mais on sait que globalement, les gens ont tendance à avoir des habitudes. On a tous des habitudes au niveau de la diète et tout. Moi, le premier, j'ai des habitudes, des plats que je fais, que j'aime bien. Donc globalement, on se dit que si une ou deux prises alimentaires sont là, et quand on demande sans prévenir à l'avance, parce que c'est toujours ça le problème, si vous prévenez à l'avance quelqu'un, il aura toujours tendance à mieux manger. Hein. Si vous voulez faire adopter un bon régime à une personne qui n'arrive pas à perdre du poids, vous lui dites je vais vous peser dans une semaine. Et donc le simple fait de faire ça, la personne va être beaucoup plus sujette à faire attention. Ou alors dites-lui un autre truc, dites-lui est-ce que vous faites, vous notez tout ce que vous mangez. Une personne qui arrive vers vous et qui vous dit je ne perds pas de poids, pourtant je mange sainement. Ok, d'accord, sainement, hypocalorique, donc bon. Et la personne omet peut-être de dire certaines choses. Donc ce qu'il faut lui dire, c'est dire écoutez, à chaque fois que vous mangez quelque chose, vous le prenez en photo, vous le notez et vous me faites un rapport en fin de semaine. Et bien vous allez vous rendre compte que cette personne-là, quand elle vous fera un rapport en fin de semaine, elle aura perdu quelques grammes. Tout simplement parce qu'en fait, elle va conscientiser, je sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais elle va écrire sur papier ou prendre en photo et voir toutes les erreurs qu'elle fait, et donc du coup se dire attends, je peux pas lui envoyer ça au bonhomme quoi. Et là, à partir de là, la personne va se rendre compte de toutes les micro-erreurs, le petit sucre qu'elle met dans le café, le petit soda qu'elle prenait mais qu'elle jugeait pas important, le petit jus d'orange à répétition, des choses comme ça. Et donc une accumulation de petits détails dans la diète vont faire que cette personne-là, elle n'arrivera pas à déclencher la perte de poids quoi. Bref, donc faites attention aux chiffres. Les chiffres qui parlent toujours d'intention des gens, c'est compliqué. C'est un peu, vous savez, comme les intentions de vote, hein. C'est toujours, on a toujours des surprises. Et là, c'est la même chose pour ça. Regardez toujours le concret. Moi, je préférerais toujours voir des chiffres sur des petits groupes de personnes, mais basés sur le concret, plutôt que sur des grands groupes de personnes. Parce que vous savez, c'est toujours tendance de dire « Ah, moi, cette année... » C'est l'idée des bonnes résolutions de début d'année, en fait. Hein. Moi, vous savez, cette année, je vais faire du yoga, je vais faire de la muscu, je vais manger plus sainement, je vais arrêter de me mettre une murge tous les samedis soirs avec mes potes, etc. On a tous ce genre de discours en tête du 1er janvier, et finalement le taux d'adhésion est assez mince, puisque sinon le surpoids ne serait pas aussi présent actuellement. Et donc voilà. Bon bref, je m'arrête sur ce sujet. Faites juste attention à ce genre de choses qui sont en fait tellement en désaccord avec la réalité qu'à un moment donné, quand la réalité que vous percevez est diamétralement opposée des chiffres qu'on vous présente, c'est pas que vous êtes fou, c'est pas que vous êtes dans une niche, dans un milieu niché, sauf si vous habitez vraiment, je sais pas, dans un milieu vraiment extrêmement, on va dire, niché en termes de diversité de population et tout ça. Mais globalement, les chiffres que vous voyez, s'ils ne sont pas en adéquation avec la réalité du terrain, et aujourd'hui, les réseaux et tout ça vous montrent un petit peu un terrain un peu plus large, c'est-à-dire que vous avez accès à d'autres choses que uniquement ce que vous voyez dans vos salles de sport ou dans, dans les centres commerciaux et tout ça à côté de chez vous. Faites attention, quoi. Enfin, voilà, faites attention. Quand je dis faites attention, vous faites ce que vous voulez, mais je veux dire, les chiffres sont souvent là pour appuyer un discours choquant ou un discours réconfortant ou autre. Non, non, ça va bien, finalement, les gens vont mieux. Enfin bon, non, la réalité, c'est pas ça. Les gens vont plus en salle de sport et les gens ont pris du poids. Donc, globalement, les intentions n'ont pas été suivies de faire mieux. Bref, je continue avec un article d'actualité. Alors moi, ça me fait toujours rire. C'est un article qui est sorti. Alors, est-ce que je l'ai gardé de côté ou pas? Oui. Alors, c'est l'Express qui parlait de... Vous savez, le nouveau... Vous avez dû, ceux qui suivent un peu la technologie et tout, vous avez dû voir qu'il y a un Tesla Bot qui va sortir. Alors, il a été présenté par Elon Musk et tout. Un Tesla Bot, un robot humanoïde qui ressemble à un humain, d'ailleurs. Et qui fait 1m72 pour 56 kilos, qui est capable de faire tout un tas de choses. Et moi, ce qui me fait toujours rire, c'est le titre des articles des journaux. Là, l'Express titre « Tesla Bot, deux points, faut-il vraiment croire au robot humanoïde annoncé par Elon Musk ?» Et ben, en fait, vous ferez mieux d'y croire, parce que personne croyait aussi en sa voiture électrique, et aujourd'hui il est quand même en très bonne position, en très bonne posture de ce côté-là. Le cours de la bourse de Tesla est relativement élevé, même si, enfin voilà, il est un peu plus bas qu'il y a quelques temps, mais il est quand même assez haut par rapport à la concurrence. Enfin, moi ça me fait toujours rire quand il y a ce genre de titre qui est où on voit qu'ils sont au-dessus, qu'ils sont là. Bon, est-ce qu'il faut vraiment y croire ? Non, mais le gars, il est déjà loin, très loin au niveau de ses prises de décision et tout. Enfin, voilà, mais bon, c'est toujours pareil. Elon Musk, on essaye de le mettre dans des catégories. Là, il y en a, je vois, qui essayent de le mettre dans la catégorie. Ah là là, c'est dangereux parce que l'intelligence artificielle. Mais en fait, c'est ceux qui prennent les articles aujourd'hui. Donc, qui sont contre Elon Musk et tout. Parce que vous savez, Elon Musk échappe grandement. En fait, il est tellement riche maintenant qu'il peut lancer des projets sans il est du style lui à lancer un truc puis voir si c'est légal après, en gros, hein, et puis à demander les droits après. En gros, je schématise, mais en fait, il s'en fout un peu, quoi. Il fait ce qu'il veut et puis après, il voit si ça passe. Mais en fait, Elon Musk, par rapport à l'intelligence artificielle, ceux qui ont suivi depuis longtemps son travail, savent que lui, il a dit que c'était extrêmement dangereux. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, il en a parlé, il a dit « Moi, ce qui me fait peur pour les années à venir, c'est l'intelligence artificielle parce que c'est très dangereux. » Et en fait, lui, son projet par rapport à ça, c'était de faire une intelligence artificielle cadrée, bornée, pour justement ne pas laisser ce domaine à la solde des gens qui sont pas mal intentionnés, mais qui pourraient laisser le truc un peu marcher en mode tranquille tout seul, quoi, et qui là pourraient devenir plutôt risqué. Mais aujourd'hui, les gens s'attaquent à lui parce qu'il parle d'intelligence artificielle. Regardez bien historiquement ses motivations. À la base, c'était justement pour créer un contrôle, pour pas que ça dérive. Bon, bref, et en tout cas là, le robot humanoïde. Alors c'est marrant parce que j'ai récupéré quelques données. Alors c'est où ? C'est là. Donc son dernier joujou, un robot humanoïde métallique baptisé Tesla Bot, mesurant 1m72 pour 56 kilos. Alors, quelle précision pour une machine qui n'est pas encore conçue. Donc voilà, déjà, vous voyez le titre, enfin les arguments moralisateurs, moi ça me fait toujours... La réussite ne plaît pas en France, hein. C'est quand il y a des innovateurs et tout, ça plaît pas. Bref, est présenté comme un assistant quotidien capable d'effectuer des tâches répétitives, faire des courses, porter des objets. Côté performance, il pourra déplacer des charges jusqu'à 20 kilos. Le poids moyen sans doute du panier de la ménagère de plus de 65 ans. Je savais même pas qu'on avait encore le droit de dire ça. D'ailleurs, là, c'est... Mais bon, bref. Pourquoi c'est la ménagère de plus de 65 ans, le poids moyen du panier de la ménagère de plus de 65 ans. Et pas du... Donc c'est que les femmes, en fait, qui ont un panier de ce poids-là, pas les hommes. Et je trouve ça bizarre encore de mettre ça dans un article d'un site populaire qui est censé être, comment on appelle ça, progressiste, ou je sais pas, enfin en tout cas qui va dans le sens de toutes les chapelles du moment, là, je sais pas comment on les appelle, mais tous ces trucs qui nous foutent des bâtons dans les roues au lieu de nous aider, évoluera à une vitesse de 8 km/h, si bien que l'on pourra lui échapper en courant plus vite que lui, a plaisanté Elon Musk, avant de préciser aussi qu'il sera amical et conscient de faire partie du monde humain. Et lui, Elon Musk, il dit un monde où l'effort physique ne sera plus obligatoire, mais choisi. Alors là, moi, je vais donner mon point de vue fitness sur tout ça. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il sera capable de soulever 68 kilos. Donc, c'est pour ça que j'ai mis, il sera capable de faire un soulevé de terre à 68 kilos. En fait, là, Elon Musk, il répond quand il dit un monde où l'effort physique ne sera plus obligatoire, mais choisi. Il corrige, et je pense que c'est ironique de sa part, il vient montrer la fausseté des gens. C'est-à-dire qu'en faisant ça, il dit, en gros, vous avez un travail physique, vous êtes épuisé, vous n'avez pas le temps. Donc en fait, tous les gens qui trouvent une excuse, qui disent « Oh, mais moi je suis fatigué, oh, mais moi j'ai mal au dos, oh, mais moi j'ai pas le temps », il donne une réponse à ça, ben maintenant moi je vous donne le temps, vous allez pouvoir faire de l'activité physique. Et on sait très bien, il est pas bête cet homme, il sait très bien que les gens, en fait, ils vont pas faire ça. On a globalement plus de temps que nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, et que même nos parents. On a plus de temps libre. Voilà. C'est clair. Enfin, voilà. Ça, c'est documenté. Vous pouvez chercher. Nous avons plus de temps libre que nos ancêtres. Pourtant, ce temps libre n'est pas consacré aux activités physiques, majoritairement. On va faire de la muscu, certes, pour nous, on fait du sport, mais globalement, les gens qui ne s'entraînent pas, ça va être du temps de réseau social, du temps de télé, des choses comme ça. Donc, si on offre encore plus de confort aux gens, ils vont encore plus se heurter à leur naturel, c'est-à-dire consommer du contenu se sédentariser. Parce que là, vous allez trouver peut-être mon discours un peu brûlant, un peu choquant, mais moi, je pense que imposer de l'activité physique par le biais d'un travail ou quoi, donc par exemple quelqu'un qui travaille en extérieur, qui a un mode de vie physique par son travail, ça n'est pas la même chose que se discipliner personnellement à faire du sport. La personne, si elle ne pointe pas au travail, elle n'est pas payée. Donc elle n'est pas payée, elle ne paye pas son loyer, elle ne nourrit pas ses enfants, toute sa vie s'effondre. Donc elle aura des motivations immédiates à pratiquer un effort physique parce qu'il faut qu'elle aille bosser. Si demain, vous ne pouvez plus porter vos courses, etc., déjà qu'il nous reste très peu d'activité physique. Je parle d'activité physique obligatoire. Les activités physiques obligatoires du passé, comme je vous ai dit, c'était les travails qui étaient moins assistés. Donc globalement, quand vous faisiez vos courses, il n'y avait pas de drive, donc il fallait marcher un peu plus. Il y avait moins d'ascenseurs, c'était moins accessible. Enfin bon, toutes ces choses-là faisaient que dans notre quotidien et dans au fur et à mesure des années, on avait un niveau d'activité physique plus important. Aujourd'hui, c'est moins le cas puisque tout a tendance à s'orienter vers le confort. Puisque pour vendre un produit, pour vendre une solution, il faut toujours qu'elle soit vendue plus confortable que l'alternative du passé. Donc forcément, moi je suis assez convaincu que ce robot ne va pas offrir en fait, quand il dit les gens pourront choisir de faire l'activité physique qu'ils veulent, puisqu'ils auront un robot qui va faire les tâches à leur place. Ouais, mais ça en fait, c'est un bon outil marketing, sauf que dans la réalité, ça ne se passera pas comme ça. Les gens vont plus être sur leur canapé et donc se faire assister par et puis ça va même être détourné. Comment le robot a fait la vaisselle à ma place, comment le robot me savonne le dos, on va avoir tout un tas de dérives comme ça. Et donc moi, je suis pour ce genre de choses, par exemple pour des personnes en fauteuil roulant, etc., donc qui ont besoin d'aide, ça peut être intéressant, bien que ces personnes-là soient sujets à l'isolement souvent, Donc forcément, quand vous avez une perte de mobilité, vous avez également souvent une perte de cercle social, enfin vous voyez moins de personnes, et je pense que ce serait plus intéressant chez ces personnes-là de multiplier les visites par des personnels de santé, professionnels de santé, des aides sociales, etc., et même de travailler pour que ces gens-là soient plus entourés. Amener une intelligence artificielle là-dedans, un robot, je sais pas si c'est une bonne idée. En tout cas, pour les tâches physiques, ça pourrait l'être. Par exemple, c'est tout con, mais mettre le fauteuil roulant dans une bagnole, je sais pas si vous vous rendez compte, pour une personne qui est en chaise roulante, comment elle fait pour mettre son fauteuil dans sa bagnole? Parce que vous allez me dire, ouais, mais il existe des trucs avec des rampes aujourd'hui. Ouais, non, mais attendez. Est-ce que vous connaissez les prix? Moi, je connais un petit peu tous ces trucs-là parce que, enfin, voilà. Mais, tout le matos, regardez par curiosité le prix des équipements pour les personnes à mobilité réduite. Vous allez halluciner. Halluciner à quel point ces gens-là se font du beurre sur l'handicap des gens. Un fauteuil roulant, c'est hors de prix. C'est plus cher qu'un vélo. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas la même utilité. Oui, d'accord, mais c'est très cher, un fauteuil roulant. C'est extrêmement cher. On parle pas de 100, 200, 300 euros. Ça se compte en milliers d'euros. Les accessoires pour mettre sur un fauteuil roulant, ne serait-ce qu'un coussin d'assise, regardez les prix, tapez sur Google coussin d'assise pour fauteuil roulant, vous allez voir le prix. Alors aujourd'hui, personnellement, s'il y en a qui cherchent un business rentable et plus honnête, penchez-vous sur ça. Parce que les prix sont exorbitants, et si vous mettez des prix moins chers, parce que globalement, vous pouvez faire les prix moins chers. Regardez la qualité des matériaux et tout, vous pouvez faire moins cher. C'est de l'abus, là, les prix qu'il y a dans ce domaine-là. Donc, vous pouvez clairement créer des choses moins chères et de très bonne qualité, et donc aider des milliers de personnes à mobilité réduite. Bon, bref, je m'arrête là-dessus, mais sachez que c'est vraiment abusé. Hein. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a... Enfin, bon... C'est vraiment... ne serait-ce que... Je regardais le prix d'un coussin, je regardais même le prix d'un parapluie. Vous savez, quand vous êtes en fauteuil roulant et que vous voulez quand même faire les boutiques, ou vous promenez, aller chercher votre pain, je sais pas moi, faire trois courses, vous avez pas envie d'être trempé. Donc il y en a qui prennent l'alternative du kawé total, mais il y en a qui aimeraient bien juste avoir une genre de petite ombrelle pour l'été quand il y a trop de soleil, ou alors un parapluie à fixer. Vous savez, un petit parapluie que vous fixez sur le tube du fauteuil roulant, quand on y réfléchit, c'est tout con. C'est pas quelque... Regardez les prix. Vous allez halluciner. Ils abusent. Et ça, c'est laisser en silence. Moi, ça m'énerve, hein, personnellement, parce que je me dis, là, c'est ça se voit comme le nez au milieu de la figure qu'ils veulent faire du beurre, parce qu'en fait, il y a peu d'offres. C'est-à-dire que peu de personnes s'attaquent à ce marché-là parce qu'ils pensent que c'est un monde marginal, qu'il y a peu de personnes. Non, il n'y a pas peu de personnes. Et puis même s'il y a peu de personnes, c'est pas une raison pour faire des prix élevés comme ça. Donc, tôt ou tard, de toute façon, il y a quelqu'un qui va se pencher sur le sujet. Donc, si vous, ça vous intéresse, moi, je pense que tout ce qui est équipement pour améliorer la vie du quotidien pour ces personnes-là, mais également les équipements de sport, hein, des élastiques pour accrocher au fauteuil, pour faire des séances et tout ça. Là, il y a un marché, hein, je vous le dis, il y a un marché qui mérite d'être exploré, et ce sont des personnes qui demandent. Parce que moi, j'ai vu des chaînes YouTube de personnes qui font même des programmes et tout pour des personnes à mobilité réduite, de muscu, boxe et tout. Il y a un marché, il y a des gens. Donc et ces gens sont extrêmement pénalisés par les coûts, en fait, par les coûts de parce que regardez, un parapluie pour mettre sur une poussette ou un accessoire pour mettre sur un vélo, et un accessoire pour mettre qui se mettra sur un guidon, donc globalement sur le même diamètre de tube, hein, ou qui va se mettre sur le même diamètre de tube sur un fauteuil roulant, regardez la différence de prix, c'est hallucinant, intolérable. Enfin, moi je trouve ça vraiment bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Donc là, le robot, oui, effectivement, ça pourrait être utile, parce que ces gens-là de mettre le fauteuil dans la bagnole, c'est pas facile. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'équiper avec une voiture, avec une rampe d'accès, c'est extrêmement cher. Et donc, là oui. Mais on sait très bien qui va bénéficier de ce genre de choses. Ça va être des gens, des geeks qui ont beaucoup de sous, et donc qui vont faciliter encore plus leur mode de vie. Moi, personnellement, quand je vois ça, je vois les gens qui restent à la maison et qui sortent plus, quoi. Donc à long terme, à moyen long terme, ça va faire des gens qui veulent plus sortir de chez elles, qui vont être de plus en plus terrorisés de l'extérieur, qui vont être de plus en plus vivre dans l'insécurité, en fait, hein, parce que vous savez, on est résistant face à la peur et tout ça par rapport à notre extrême. C'est-à-dire que plus vous avez exploré des dangers, etc., sur l'échelle des dangers assez élevée, plus en fait tout ce qui va se trouver entre votre plus élevé, de ce que vous avez obtenu, de ce que vous avez vécu, et la situation zéro, donc zéro danger. Et je prends le cas concret, par exemple, des personnes qui ont fait la guerre. Ils ont connu la guerre, donc je pense que ça doit être sur le seuil de peur, etc., de tout ce que vous voulez, ça doit être relativement élevé. Donc quand vous avez connu ça, évidemment, tout ce qu'il y a en dessous, c'est beaucoup plus simple qu'une personne, le plus gros risque qu'elle a pris dans la vie, c'est, je sais pas moi, c'est qu'est-ce qui pourrait être un peu risqué? Le plus gros risque qu'elle aurait pris, ce serait de sauter, par exemple, d'un rocher dans l'eau, quoi. Par exemple, voilà, c'est le plus gros risque qu'elle a pris. Ou alors, le plus gros risque qu'elle a pris dans sa vie, c'est, je sais même pas quoi prendre comme exemple. D'un risque assez modéré, mais voilà, le plus gros risque qu'elle aurait pris, ce serait de rentrer seule, de traverser une ville seule à pied le soir dans la nuit, tard. Donc si ça c'est le plus gros risque de la personne, bon ben voilà, en fait l'échelle de risque entre la variabilité, je sais pas comment expliquer ça, mais le delta qui est entre zéro risque et son maximum est assez faible pour cette personne, puisque globalement tout le monde est capable de traverser une ville de nuit, enfin voilà, sauf qu'aujourd'hui le climat d'insécurité crée chez les gens beaucoup de terreur et tout ça. Mais une personne qui a fait la guerre ou une personne qui a vu vraiment des choses vraiment a vécu du danger vraiment extrême aura une résistance par rapport à toutes ces situations du quotidien beaucoup plus faible. Donc moi je pense que effectivement si ce genre de robot arrive dans le quotidien des gens, ça va encore baisser le seuil de danger. Donc c'est-à-dire que les gens vont encore moins explorer de choses dangereuses dans leur quotidien, donc on va avoir une échelle de résistance à la une jauge de résistance à la peur assez faible, avec un delta très faible quoi. Et donc du coup ça va faire des gens qui auront peur de tout. Bref. Et globalement, sur la première génération, les gens se souviendront encore de ce que c'est qu'un muscle. Et puis dans la génération d'après, ne serait-ce que prendre un halter, faire un curl, pour eux, ça sera... Mais pourquoi? Ça sert à rien, mon robot, il peut le faire. Bref, je vis un peu dans un monde parallèle. Je sais quand je vous parle de tout ça, sauf que le nouveau joujou, comme ils disent, d'Elon Musk, il est là. Enfin, il est là, lui, il est dans son atelier, entre guillemets. Il est là, il y pense, quoi, et il veut le faire. Donc, il faut s'y préparer dans le sens où nous, on s'en fout. Parce que nous, on fait du sport, on est habitué à ça, on a notre échelle comme ça, on sait de quoi on est capable. Mais il faut penser aux enfants qui arrivent, aux petits-enfants qui arrivent, on voit bien déjà que globalement, il y a eu vraiment une grande distance entre le point de vue de nos grands-parents, la mentalité, le niveau de capacité et celle des ados d'aujourd'hui, des jeunes d'aujourd'hui. Il y a quand même une différence assez notable, on va dire, quoi. Bref, petite réflexion avant de terminer. Par rapport à toutes les personnes qui veulent se remettre au sport et tout et qui ont fixé une date clé, donc là typiquement en septembre peut-être qu'ils vont s'y remettre, donc peut-être qu'aujourd'hui s'ils sont remis ou peut-être que ce sera la semaine prochaine, je sais pas. Pour beaucoup de personnes, voilà, ils se disent lundi je m'y remets. Moi je vais vous donner la meilleure stratégie pour reprendre à coup sûr, mais vraiment à 100%. La meilleure solution, c'est de s'y mettre la veille de la date de reprise. C'est-à-dire que si vous avez décidé de vous y mettre un lundi, faites une micro-séance chez vous, de façon modeste mais réelle quand même. Faites une petite séance à la maison. Si vous avez décidé de faire du yoga, de la muscu, du n'importe quelle discipline sportive, de vous y remettre ou de vous y mettre, démarrez avant la date que vous avez fixée. Vous avez par exemple un exemple, c'est ceux qui ont décidé de le faire le 1er janvier, vous savez, pour les bonnes résolutions, démarrez fin novembre. Comme ça, en fait... Le fait d'être prêt légèrement avant le commun des mortels, parce que vous savez qu'il y a des dates clés, il y a septembre et il y a janvier pour le fitness. C'est deux dates clés. C'est la reprise pour après l'été parce qu'on a grossi, après les fêtes parce qu'on a grossi, globalement parce que c'est une forme de bonne résolution, de bonne routine de vie. Préférez, au lieu d'y aller fort, régime, machin, tout ça, pour ceux qui débutent et qui m'écouteraient, je sais qu'il y en a peu, mais quand même, je sais qu'il y en a. En tout cas, il y en a beaucoup qui ont arrêté et qui aimeraient reprendre et qui ont du mal. Faites vraiment ça. C'est-à-dire que au lieu de vous dire je préfère reprendre quand tout ira bien, vous savez, ces gens qui repoussent en achetant le meilleur matériel, les meilleurs vêtements, ils attendent d'avoir tout l'équipement avant de s'y remettre. Non, vous avez rien chez vous, c'est pas grave, commencez même aujourd'hui, vous faites ce soir sans pompe, vous faites des abdos, n'importe quoi. Et en fait ça, le fait d'être plus modeste mais de démarrer maintenant, alors la date réelle est conservé. C'est-à-dire que vous conservez vos objectifs d'investir et tout ça dans votre équipement. Je sais pas ce que c'est votre but, mais bon, bref. Mais commencez quand même. Parce que Déjà le choc physique va être quasi nul en fait quand vous allez démarrer, puisque une personne qui fait plus rien depuis un certain temps et qui passe directement sous les barres après un temps d'arrêt, il va crever dans le bon sens du terme, parce qu'il va faire du bien à ses muscles et tout. Le lendemain, ça va être une torture, et même le choc va être assez important quand il va être à la salle. Donc commencez maintenant. Des crunchs, on peut tout faire à la maison, on peut faire le bas du corps, le haut du corps, on peut faire du HIIT, on peut tout faire. Donc moi vraiment la réflexion que j'avais, c'est la meilleure solution de s'y remettre, c'est de s'y remettre la veille de la date qu'on a visée. Et moi, j'ai toujours préféré, par exemple, démarrer un truc le vendredi, ou le samedi, ou le dimanche, mais jamais le lundi. En fait, ça met une pression, et cette pression conduit souvent à la procrastination pour beaucoup de personnes. Et je sais que j'entends tout le monde qui dit « Allez, début du mois, je m'y mets. » Mais pourquoi, en fait? Et je veux dire, tout ça sont des chiffres. Et tout le temps perdu, en fait, ça sera du gras en plus accumulé. Ça sera... il faut y aller, quoi. Il faut vous y remettre. Moi, c'est ce que je vous recommande vraiment, c'est de ne pas attendre cette foutue date marquée sur le calendrier. Et en plus de démarrer dans des conditions comme ça, vous démarrez un peu à l'abri des attentes des autres, parce que peut-être que vous avez déjà dit aux autres, je m'y remets à telle date. Et ben, ils vont vous attendre au tournant, donc ça vous met une pression supplémentaire. Mettez-vous-y tranquille. Et moi, je sais qu'il y a une grosse problématique dans le monde du fitness, c'est la politique du tout ou rien. Alors du tout ou rien, au moins à l'entraînement. C'est-à-dire que pour beaucoup, s'ils peuvent pas avoir leurs grosses haltères, leurs machins, ils vont pas faire. Non. Vous pouvez toujours être intense. Et le programme que j'ai mis sur le site, là, c'était la semaine d'avant, parle bien de ça. Il y a moyen de se faire des séances très intenses en peu de temps avec peu de matériel. Allez voir sur le site, ça y est, hein, vous tapez 30 minutes ou programme 30 minutes, un truc comme ça, vous trouverez facilement. Mais bon, voilà, je m'arrête sur le sujet, c'était ma réflexion. Pour ceux que ça intéresse, j'ai publié hier, donc avant-hier pour ceux qui écoutent le mardi d'ailleurs, une FAQ sur mon site, Foire aux questions, où je réponds à toutes vos questions en vidéo, et dont une qui m'a occupé, qui s'appelle « Si compter les calories vous stresse », voilà la solution en gros. Donc pour toutes les personnes, vous savez, peut-être que vous ça vous concerne, vous savez, des personnes qui quand elles perdent le fil du comptage des calories, elles ont tendance à tout abandonner, à stresser, à moins manger, puis après faire des crises de boulimie, etc. Elles ont besoin d'avoir une maîtrise sur le comptage des calories. Si ça vous stresse, franchement allez voir ça. Et je pense qu'après, vous aurez déjà solutionné 90% du problème. Le but, c'est de retrouver de la sérénité, de la bonne gestion, un bon physique et tout, sans avoir besoin de MyFitnessPal comme ça, d'être collé à son écran. Il y en a qui peuvent pas s'en passer, hein, clairement, et c'est pas bon. Et je vous le dis aussi clairement, c'est très mauvais de fonctionner dans cette logique-là, parce que ça va devenir une habitude, puis une logique, puis après, vous allez pas comprendre pourquoi les gens ne vous comprennent pas par rapport à toutes ces choses-là. Clairement, c'est pas, l'être humain n'est pas fait pour scanner et compter ses calories tout le temps. Il y a quelque chose qui va au-delà de ça, on en parle, et qui traduit vraiment une bonne façon de faire. Et je vous le présente, je vous en parlerai là-dedans. Donc vous avez le lien là dans les notes du podcast, allez voir, et on se retrouve de l'autre côté en vidéo si ça vous intéresse. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque que je... Alors, c'est un Netflix version fitness privé qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.